Alors, moi, je vais vous entretenir d'un propos un peu différent, parce qu'on a beaucoup parlé de l'école, des enfants, des choses comme ça. Il se trouve que moi, je suis plutôt spécialisé dans l'éducation des adultes. Et c'est pour ça que je me suis proposé de reprendre à la fois quelque chose qui renvoie à l'éducation des plus jeunes, mais aussi à l'éducation des adultes. Et c'est pourquoi j'ai utilisé un terme un petit peu barbare, sur lequel je reviendrai en conclusion, qui est l'andragogie. Et à la fois, je dirais ce que c'est, d'où ça vient, et les limites du terme lui-même. Sachant que pour le second terme, celui des invariants, et là je me suis inspiré très directement de ce qu'a pu faire Célestin Freinet, puisque en 64, Célestin Freinet a défini des invariants pour la pédagogie coopérative dont il était l'un des chefs de file. Voilà. Et donc, j'ai listé un certain nombre de choses qui, pour moi, apparaissent comme des indispensables pour conduire un groupe d'adultes en formation, sachant que je préfère que le groupe d'adultes se conduise plutôt que je ne le conduise, mais c'est quelquefois un petit peu compliqué, et c'est peut-être des invariants qui sont indépassables. Voilà. Cela dit, j'en ai listé un certain nombre, il n'est pas dit que la liste que j'ai faite soit exhaustive et que vous n'ayez pas le droit de vous en emparer, de la réduire ou de l'augmenter, et donc je vais revenir sur un certain nombre de ces invariants. Alors du côté je les ai appelés comme ça, des apprenants et des apprenantes, il y a un certain nombre de choses que ceux et celles qui souhaitent faire acquérir des connaissances ou des technologies ou des pratiques aux adultes doivent éventuellement tenter d'en tenir compte, voire de les mettre en œuvre. Quand je vous bassine, vous me le dites, j'arrête parce que j'en ai quand même un certain nombre. Invariant numéro 1, pardon. Être rationnel, développer l'esprit scientifique, favoriser la recherche de la preuve. Et ça, on a vu que Robin, déjà, à sa manière, le disait. Être rationnel, c'est-à-dire s'appuyer sur la raison et non pas sur la croyance, comme le font ceux qui partagent plus largement une religion. Ils sont dans la croyance, nous sommes dans la raison. Développer l'esprit scientifique, c'est-à-dire tenter de mettre en œuvre un certain nombre d'expériences, et si possible, voir si ces expériences sont renouvelées et dont les résultats sont à peu près identiques. Donc on pourra dire, les résultats étant à peu près identiques, il est probable que ce qu'on a mis en œuvre est une preuve ou un vrai savoir. Et la recherche de la preuve, c'est, là encore, essayer de trouver les éléments qui font preuve, comme diraient les juristes. Deuxième invariant, cette éducation des adultes doit être, et pas que, pas que le émancipatrice, mais pas que des adultes. Cette éducation doit être émancipatrice, donc tendre à plus de liberté possible pour ceux qui vont s'engager sur le chemin du savoir. Et parce qu'elle sera émancipatrice, elle a pour fonction ou pour objectif, voire comme éthique, de permettre à chacun de devenir une personne équilibré et épanoui. Et ça, quand vous lisez toute la littérature sur la pédagogie libertaire, effectivement, la recherche de l'équilibre de ceux et celles qui apprennent est extrêmement important. Équilibre dans les apprentissages qui permettra à des gens de devenir des citoyens, j'aime pas trop le mot, mais enfin des acteurs éclairés dans la vie sociale. Et alors, là encore, je vais me rapprocher d'un certain nombre de nos grands anciens, développer cet équilibre et cet épanouissement dans toutes ces dimensions, que ce soit des dimensions intellectuelles, des dimensions cognitives, on dirait même conatives, aujourd'hui on a plein de mots savants qui veulent pas forcément dire grand-chose, voilà, afin que chacun des protagonistes de ces apprentissages devienne une personne fière et libre. Et quand je dis une personne fière et libre, je me revendique très directement de Fernand Pelloutier, qui considérait que l'éducation devait permettre à chacun d'entre nous de devenir fier et libre au sens où je m'assume en tant que personne, et libre, personne ne décide à ma place. Voilà. Donc ça, c'est Pelloutier. Et le même Pelloutier souhaitait aussi que l'éducation... Alors, Pelloutier met en place les bourses du travail, où effectivement, dans les bourses du travail, il y a des lieux d'éducation, soit professionnels, soit d'alphabétisation à l'époque. Voilà. Et donc, l'autre objectif de l'éducation des adultes vu par Pelloutier, c'est permettre à chacun, et là je le cite, d'accéder à la science de son malheur. Accéder à la science de son malheur, dans l'esprit de Pelloutier, ça veut dire, je vais comprendre le pourquoi de la domination. Le pourquoi de la domination sur moi, ou le pourquoi de la domination sur les collectifs. Et à partir du moment où je suis conscient de cette oppression, je peux commencer à mettre en œuvre un certain nombre de choses pour me libérer, voire collectivement m'associer avec d'autres de façon à trouver des solutions collectives à cet asservissement. Et là, ça renvoie à Pelloutier, comme je vous le disais à l'instant, et ça renvoie à un autre pédagogue, pour le coup, qui lui parle de conscientisation. Hein, et je cite Paulo Freire, qui a été un grand pédagogue brésilien, même s'il y a des éléments du personnage qu'on pourrait remettre en doute, mais qui a quand même, là aussi, avec les paysans du nord-est brésilien, aider ces derniers à prendre conscience de leur domination pour essayer de transformer un peu leur réalité, voire le monde. Un variant numéro 3, encourager l'expérience, la découverte et les projets. Et on a vu ce matin dans le premier film sur Jacques Audet que la pédagogie du projet, eh bien les bateaux ne coulent pas et qu'on apprend plein de choses. Voilà. Et encourager l'expérience, et là ça renvoie très directement à Freinet, c'est ce que Freinet appelle le tâtonnement expérimental. J'essaie des choses, elles sont réussies, j'essaie d'en déduire les règles qui fondent ces choses-là. Elles échouent, je recommence de manière à trouver les éléments de savoir qui me permettront de la stabiliser, voire de la reproduire ultérieurement. Un variant numéro 4, mettre la personne au centre de ses apprentissages afin de lui permettre de se réaliser. Et ça, on l'a vu aussi autour des interventions de ce matin. Effectivement, plus vous êtes au centre de vos apprentissages, c'est-à-dire plus vous décidez ce dont vous avez envie de devenir ou de faire, plus l'accès au savoir sera facile. Quand c'est vous qui décidez d'apprendre ceci ou de faire cela, c'est bien plus facile de s'y engager que si quelqu'un vous contraint à faire ceci ou à faire cela. Donc c'est l'esprit de liberté qui devrait régner dans les lieux d'apprentissage. Un variant numéro 5, inciter à développer son autonomie, son esprit critique et favoriser le doute. Esprit critique, c'est-à-dire que je ne prends pas pour argent comptant tout ce qui m'est dit, et je m'autorise à douter de tout ce qui est dit, de manière à trouver les éléments qui me permettront soit de partager ce qui m'a été dit, soit effectivement de le remettre en cause et de le retravailler pour, pourquoi pas, produire du savoir et d'autres vérités. Alors, vérités ponctuelles, parce qu'on sait que la science, au fur et à mesure qu'on l'interroge, se transforme. Qu'est-ce qui était vrai hier n'est pas toujours vrai demain. Même s'il y a des savoirs qui sont définitivement constitués, comme l'héliotropisme, il est probable qu'on tourne autour du Soleil et que le Soleil soit le centre du système dit solaire. Voilà, ça, je ne pense pas qu'on puisse le remettre en cause facilement. Un variant numéro 5, je l'ai dit. Un variant numéro 6, offrir à la personne tous les moyens afin de pouvoir être sans jamais devoir être. Et là, ça renvoie à ce que dit un camarade italien, là, qui s'appelle Francesco Cadeo. Et je pense que c'est tout à fait fondamental dans l'esprit des pédagogies libertaires et autogestionnaires. En gros, il faut que j'ai des ressources pédagogiques qui vont me permettre de pouvoir être, de devenir ce que j'ai envie de devenir. Et non pas de devoir être, le devoir être étant Jules Ferry ou notre nouvelle ministre de l'Éducation, dont j'ai déjà oublié le nom. Belloubet, Madame Belloubet, va décider de ce que moi, enfant, ou de ce que moi, adulte, je dois devenir. Donc, en gros, l'éducation, selon Durkheim, c'est pétrir une cire molle de manière à ce qu'elle devienne ce que Durkheim a envie qu'elle devienne. Enfin, je caricature, voilà. Et donc, l'idée, c'est de se réaliser. Et là, ça renvoie aussi à un autre personnage qu'on n'a pas évoqué, parce qu'on ne peut pas tous les évoquer, qui est Pestalozzi, que vous connaissez peut-être. Pestalozzi, c'est un pédagogue issu de la pensée rousseauiste, et qui disait que la finalité de l'éducation, c'était faire œuvre de soi-même, et non pas être l'œuvre d'un pouvoir exogène qui me conforme et qui ne me rend pas la liberté à laquelle j'aspire. Un variant numéro 7, favoriser le papillonnage. Et Mérieux l'a évoqué, le papillonnage, il ne l'a pas inventé, c'est issu de la pensée de Charles Fourier. Et Fourier dit que pour qu'un enfant, éventuellement un adulte en ce qui me concerne, choisisse son métier, sa reconversion, son devenir personnel, eh ben, il puisse aller de droite et de gauche, plutôt de gauche quand on peut, pour visiter un certain nombre de métiers,
le charpentier, l'informaticien, l'esthéticienne ou la plombière. Voilà, et qu'en fonction... C'est bien plombière, hein ?
Non, on peut dire esthéticienne et informaticienne.
Ah oui, mais je vais pas tout féminiser à chaque fois. J'ai déjà dit plombière, c'est pas mal, hein. Voilà, donc, toujours est-il que l'enfant ou l'adulte se déplace dans ces lieux-là, il papillonne, hein, comme les papillons le font, et il va à un moment dire « Ah, le métier que j'ai envie de faire, les savoirs que j'ai envie de découvrir, c'est plutôt cela. » Et à partir de ce moment-là, il s'engage dans un projet qui est son projet, et non plus le projet d'autrui, pour devenir ce qu'il a envie de devenir, comme je le disais tout à l'heure. Invariant numéro 8, assurer la liberté pour apprendre. Et là aussi, c'est extrêmement important. Alors, on sait depuis quelques années maintenant qu'on a chacun des façons différentes d'apprendre. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas considérer qu'il y a une bonne méthode d'apprentissage pour l'ensemble des gens qui sont en face de vous, mais que chacune des personnes va avoir ses rythmes, va avoir ses modalités d'apprentissage, va avoir ses temporalités d'apprentissage, va avoir des choix de support qui lui sont particuliers. Et peut-être que notre boulot, c'est simplement de permettre aux personnes de trouver ce dont ils ont envie et éventuellement de trouver les supports, les méthodes, les modalités, et j'en passe encore, qui seront les plus efficaces, j'ai osé le terme, pour que l'apprentissage de cette personne-là soit possible. Sachant que pour une autre personne qui aura les mêmes objectifs, peut-être que les modalités, les contenus et les supports seront différents. Donc on maintient les objectifs d'émancipation, sachant que les voies de l'émancipation des uns, des unes et des autres ne sont pas forcément toujours identiques. Voilà. Invariant numéro 9, ouvrir les lieux d'apprentissage à toutes les compétences. Et là aussi, ça renvoie par exemple à ce que disait un autre pédagogue qu'on n'a pas cité aujourd'hui, Rorda et quelques autres. En gros, quand vous êtes instituteur ou formateur d'adultes, si vous voulez parler charpente, autant faire venir un charpentier ou, pour faire plaisir à Virginie, une charpentière. Voilà. Donc ouvrir les lieux d'apprentissage à toutes les spécialités pour que ces spécialités soient proposées par des gens de métier ou de connaissances, sans faire de l'instituteur, du formateur ou de l'enseignant celui ou celle qui sait tout, qui peut répondre à toutes les questions, comme le font d'ailleurs à peu près tous nos ministres, qui on les déplace de la finance à l'éducation et de l'éducation au premier ministériat, on dit ça comme ça, j'en sais rien, eh bien, ils savent tout faire. Voilà. Et donc ça me paraît assez inconséquent du point de vue de l'accès à la connaissance pour les uns et pour les autres, avec une petite tension, attention politique, voilà. Invariant numéro 10, développer la pédagogie intégrale de manière à faire mettre un lien entre la théorie et la pratique. Et là encore, pédagogie intégrale, c'est un terme qui a été évoqué par Mérieux tout à l'heure à propos de Robin, mais Robin, il ne l'a pas inventé. Celui qui est le premier à parler de pédagogie intégrale, c'est Charles Fourier. Ça a été repris par Proudhon ultérieurement et par la suite par un certain nombre de pédagogues et d'andragogues, puisqu'on les appelle quelquefois comme ça. Pédagogie intégrale, ça veut dire qu'on développe, et ça c'est Sébastien Faure qui le dit, celui qui a mis en place une grande expérience pédagogique libertaire qui s'appelle La Ruche, c'est développer autant l'esprit que la main. Et si on développe autant l'esprit que la main dans les pédagogies libertaires, c'est pas simplement pour faire joli, c'est parce que nous savons, nous craignons, et ça, Bakounine l'a écrit dans un texte qu'il à Genève, je crois, en 19, s'appelle « Les endormeurs ». Et les profs, c'est des endormeurs, voire des maîtres explicateurs, comme ça a été dit. Et dans les endormeurs, ce que nous dit Bakounine, c'est « Attention, les intellectuels, on en a besoin, il n'est pas question de faire de l'anti-intellectualisme, mais ils ont une légère tendance à vouloir prendre le pouvoir. Et si on est tous en mesure de penser et tous en mesure de faire, ou tous en mesure de faire et de penser, il est probable que les tentatives de prise de pouvoir par les intellectuels seront moindres, voire seront empêchées. On peut rêver. Invariant numéro 11, développer les pédagogies actives de manière à donner du sens au savoir, ou de l'andragogie active. En gros, on fait faire des choses aux gens, et au travers des choses qui se font, le projet, la réalisation, ou les œuvres artistiques, comme le disait Isabelle qui est partie, eh bien, on accède au faire, et à partir du faire, on va essayer de déduire les règles, les connaissances, les théorèmes qui fondent ce que je viens de faire. Et donc, on change de modèle, On passe d'une pédagogie qui est dite déductive, de l'abstrait au concret, qui est le modèle dans lequel nous sommes largement baignés dans notre République qui n'est pas très éducative, pour passer à un modèle qui est un modèle inductif. On parle du terrain, on parle de la réalisation, et de cette réalisation, on va essayer de tirer les règles, les théorèmes, de manière à pouvoir reproduire l'action ultérieurement. Et donc, pour un certain nombre d'entre nous, qui avons été soumis à des pédagogies déductives dans lesquelles on ne comprenait rien, on nous aurait mis dans des processus où le savoir prend sens par rapport à des réalisations faites, il est possible que nous aurions appris beaucoup plus de choses, parce que je vous rappelle quand même que dans les 20 ans qu'on a passé en moyenne dans le système éducatif, il nous reste assez peu de choses quand même. Et que la productivité pédagogique, c'est encore un grand terme, elle est quand même toute relative, sauf quand il s'agit de nous dresser pour devenir ce qu'on doit devenir, parce que certains ont décidé qu'on doit devenir ceci ou cela. Invariant numéro 12, faciliter et promouvoir la coopération et l'entraide dans le collectif d'apprenants. Alors là encore, ce n'est pas simplement un vœu pieux. On sait aujourd'hui que des réunions collectives, alors j'ai cherché le terme ce matin, c'est le conflit socio-cognitif, ou la controverse, qu'une vieille chose, puisque dans la pédagogie, si on peut appeler ça comme ça, médiévale, on parlait déjà de disputatio. Donc on se dispute, on se contredit, et parce qu'on se contredit, ça modifie nos représentations, ou au contraire, ça les stabilise. Voilà. Et donc, promouvoir la coopération, donc ça facilite ce genre de choses, et en plus, ça nous rend beaucoup plus efficaces collectivement. Là encore, Pierre-Joseph Proudhon, que j'ai déjà évoqué, nous démontre quelque chose de très simple dans un de ses ouvrages. Tous ne sont pas lisibles, rassurez-vous. Il dit que pour ériger l'obélisque qui est sur la place de la Concorde, là, que nous a été gentiment offert par les Égyptiens dans des conditions un petit peu délicates, il faut 300 jours de travail. Et il dit, une personne pendant 300 jours ne réussira jamais à mettre sur pied l'édifice obélisque. Par contre, 300 personnes qui coopèrent en une seule journée pourront dresser l'obélisque. Donc c'est une démonstration un peu facile peut-être, mais qui montre que la force du collectif est importante, et c'est vrai du point de vue de l'éducation, et c'est sans doute vrai aussi du point de vue des faits sociaux. Inciter à la confrontation des idées, à l'écoute et au respect d'autrui, ça a été évoqué aussi, et c'est mon invariant numéro 13. Voilà, confrontation, je l'ai évoqué il y a un instant. L'écoute, c'est-à-dire qu'on respecte l'altérité de l'autre et qu'on va essayer de s'enrichir à partir de ce que l'autre peut nous apporter, sachant que l'autre, de son côté, s'enrichira peut-être de ce que nous pouvons apporter dans le même cadre. Invariant numéro 14, c'est moins vrai en éducation des adultes, encore que, refuser les notes, les classements, qui ne visent à instaurer et qu'à entretenir, voire à créer, des hiérarchies entre les personnes. Le système de notation dans lequel nous sommes, quand on vous met un 12, vous ne savez pas à quoi ça sert. Vous ne savez pas ce que vous savez et vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Et le 12 de votre voisin n'est pas le même que votre 12 à vous. Voilà. Et donc, l'idée de la note, c'est d'abord de vous classer, et ce classement aura des effets sur votre devenir social. Voilà. Et donc, en particulier, Francisco Ferrer Guardia, qui a eu la chance d'être fusillé puisque pédagogue en 1909, eh bien, déjà en 1909, refusait les notes pour éviter de classer les enfants et travailler non pas sur la sélection par la note, mais plus par la coopération entre les uns, les unes et les autres. Invariant numéro 15, combattre toute forme de coercition et de violence physique, psychique ou symbolique envers les apprenants. Et là, je ne vais pas vous renvoyer vers des souvenirs délicats, mais peut-être que dans certaines situations que vous avez connues, eh bien, vous avez été soumis à des violences physiques. Et moi, j'ai rencontré des gens dans le Morvan, nos âges, en gros, à qui c'est arrivé il n'y a pas très très longtemps. Psychique, donc c'est le poids de l'institution sur les personnes et le poids du sachant ou du prétendu sachant sur les personnes, et éventuellement symbolique, où il y a des gens qui, sous prétexte de statut, s'autorisent à telle ou telle chose et qui vous renvoient un statut inférieur, ça va de soi. Invariant numéro 16, et là aussi on en a entendu causer avec Robin, assumer la mixité, la coéducation, au sens de Francisco Ferrer, qui l'avait déjà pointé dans les écoles rationnelles qu'il avait montées en Catalogne et ultérieurement dans une grande partie de l'Espagne avec ses successeurs. Mixité de sexe, avec les ennuis que ça peut causer, Robin, entre autres choses. Mixité de culture, mixité d'origine géographique, mixité sociale. Et l'idée de Paolo Freire, pas de Paolo Freire, de Francisco Ferrer, c'était de dire on va élever ou éduquer, on va permettre aux enfants de la classe ouvrière de s'éduquer avec les enfants de la bourgeoisie laïque et souvent franc-maçonne de Barcelone, de manière à ce que quand les uns et les autres seront adultes, ils n'aient plus envie les uns d'exploiter les autres et les autres de se laisser exploiter par les précédents. Hein, donc on va créer de la fraternité, on va créer de l'égalité simplement par la rencontre, en disant j'ai été élevé avec, je ne peux pas devenir son seigneur et maître. Et ça, ça a été repris, ces idées-là, quand vous travaillez avec des demandeurs d'emploi. On sait quand vous mixez des populations de demandeurs d'emploi entre des gens qui étaient cadres, des gens qui étaient ouvriers, des gens qui étaient travailleurs sociaux, des gens qui étaient éventuellement dans la grande distribution, eh bien, chacun va apporter un certain nombre de choses qui facilitera peut-être la réinsertion de l'autre. Parce que l'ingénieur va connaître un endroit où on a besoin d'un comptable, le comptable va peut-être connaître un endroit où on a besoin d'un travailleur social, et ainsi de suite. Et cette mixité-là, à la fois modifie un peu les rapports de classe, mais aussi facilite le réseau qui va vous permettre, peut-être, de retrouver une situation plus favorable. Invariant numéro 17, et là je me réfère à l'individu qui a pris la suite de Carl Rogers, c'est Albert Bandura. Et Albert Bandura dit, pour réussir l'éducation, mais ça vaut pour les plus jeunes et puis pour les moins jeunes, il y a trois règles qui sont importantes. Inciter à l'autodirection, je vais expliquer. Inciter à l'auto-organisation, je vais vous le dire. Et inciter à l'auto-évaluation. Inciter à l'autodirection, ça veut dire je choisis moi-même ce que j'ai envie d'apprendre. Je m'auto-dirige, je choisis ce que je veux savoir. Et à partir du moment où je choisis ce que je veux savoir, c'est beaucoup plus facile pour progresser. Auto-organisation, ça veut dire je vais choisir les moments, les supports, les modalités qui sont les miennes pour apprendre. Donc je choisis ce que je veux faire, je choisis le comment je vais accéder à la connaissance, et enfin, je vais choisir les modalités pour essayer de trouver la manière de m'évaluer moi-même, donc auto-évaluation, afin de dire, effectivement, j'ai progressé dans tel domaine, j'ai moins progressé dans tel autre. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des évaluations croisées et songer avec d'autres pour voir si ce que je crois avoir acquis a bien été acquis. Voilà. Et là encore, comme le disait Fernand Houry, mais on va parler d'Houry dans un instant, ensuite, parce que Bruno va prendre le micro dans un instant, eh bien, Houry disait, ils ont horreur d'être évalués, au sens de la sommation, au sens du classement, mais ils ont besoin de se jauger, donc de savoir où on en est par rapport à telle ou telle acquisition de savoir. On me fait savoir qu'il faut que je me taise, et j'en avais encore plein à vous dire. Invariant numéro 18, et ce sera le dernier avant la conclusion. Donc cette andragogie libertaire, et l'intention de ses promoteurs, qui ne sont pas si nombreux que ça, rassurez-vous, le monde n'est pas en grand danger, eh bien, c'est tout simplement, par la liberté de l'éducation, permettre à l'individu libre de s'auto-construire afin de se penser et d'agir librement. Donc, c'est faire œuvre de soi-même. Je reviens sur le terme andragogie. Alors, le terme andragogie, il a été fondé en 1833. Comme quoi, ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas un scoop, par un Allemand, Alexander Kapp. Sachant que ce terme est très peu utilisé en France, un tout petit peu, il l'est beaucoup plus chez nos voisins lointains nord-américains, qu'ils soient francophones du Québec ou qu'ils soient anglophones du Québec et des États-Unis. Voilà. Sachant qu'il faut critiquer ce terme-là, parce que comme tout le monde a fait du grec dans cette salle, tout le monde sait que Andros, c'est l'homme genré. Et donc, quand vous dites « je suis andragogue, d'une certaine manière, vous évacuez 52% de la planète de l'éducation. Et donc, il faudrait se référer à une autre source, grecque toujours, ça serait anthropos. Alors, anthropos, c'est chic, c'est le genre humain. Et là, tout le monde y est. Alors, vous imaginez votre carte de visite avec marqué « Je suis anthropogogue ». Bon, là, vous prenez la lourde tout de suite, ça va être rapide. Voilà. Et donc, moi, pour ma part, je préfère parler d'éducation des adultes, parce que certains parlent de pédagogie des adultes, ce qui est une absurdité, parce que pédagogue, c'est celui qui conduit les enfants. Donc, pédagogie des adultes, c'est n'importe quoi. Voilà. Et donc, plutôt parler d'éducation des adultes, sachant que cette éducation des adultes et que cette andragogie, vous me passerez le terme maintenant, libertaire et autogestionnaire, vous l'avez bien compris, se réfère aussi bien aux éducateurs anarchistes, hein, j'ai cité Proudhon, j'ai cité Pelloutier, j'ai cité Ferrer, et je pourrais en citer d'autres, mais aussi à d'autres grands courants des pédagogies qui se veulent émancipatrices, Jacques Otto, je l'ai dit, Freinet, je l'ai dit, Houry, je l'ai dit, Roger, je l'ai évoqué, et Paolo Freire, j'avais cité son nom. Voilà. J'avais d'autres choses à vous dire, mais je suis obligé de tenir le temps que je veux tenir aux autres. Quoi. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis un truc, là, même si ça ne vous intéresse pas. À la Fédération anarchiste, dans nos congrès, on n'applaudit pas. Pour éviter de créer des fractions, créer des choses qui ressembleraient au culte de la personnalité, dont il est particulièrement friande. Avez-vous des questions? Et qui passe le micro à ces... Dimitri, qui passe le micro à chef, si des fois vous souhaitez intervenir, contredire...
Quelle différence vous faites entre éducation des adultes et éducation populaire?
Alors là, on n'est pas sorti de l'auberge. L'éducation populaire n'est pas forcément qu'une question d'éducation des adultes. On peut faire d'éducation populaire en milieu scolaire ou périscolaire. Voilà. L'éducation des adultes, elle peut être quelquefois populaire, comme ici peut-être, mais elle peut être aussi professionnelle et vise à conformer les individus dans des systèmes de compétences qui sont requises par le patronat. Donc, éducation populaire nécessairement émancipatrice, mais on fera un colloque sur l'éducation populaire l'année prochaine, on recommencera. Voilà. Par contre, l'éducation des adultes n'est pas nécessairement émancipatrice, voire elle peut être avoir des visées tout à fait qui visent à nous conformer, voire, comme le disent un certain nombre d'entre nous, faire en sorte que l'individu devienne employable, qui est un terme absolument épouvantable. Je vous ai scotché, là.
Ah. Au réseau d'échange des savoirs, qui a été mis en place il y a plusieurs années pour permettre aux personnes de s'entreprendre. Et c'est quand même un réseau qui est ouvert, qui peut être non autoritaire et qui permet quand même aux gens de la cité de partager ce qu'ils sont.
Oui, je ne vais pas évoquer ça parce que je ne peux pas tout évoquer. Effectivement, c'est Claire Hébert Suffrin qui a mis ça en place d'abord à Thiers et ensuite à Évry, avec l'idée que tout le monde sait des choses. Tout le monde est en capacité de passer ces choses-là et le savoir n'a pas de prix. Voilà, effectivement, ils mettent en place un certain nombre de réseaux. Ma critique de ce que sont ces réseaux-là, c'est qu'on n'y apprend pas toujours beaucoup de choses, même s'ils se veulent réseau d'échange de savoir. Par contre, ça crée beaucoup de liens sociaux entre les individus. Donc, du côté de la connaissance au sens le plus strict, c'est tout relatif. À part quelques exemples. Par contre, au sens de recréer de la solidarité, recréer du lien, recréer de la proximité entre les gens des quartiers et de groupes sociaux un peu différents, c'est tout à fait réussi. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a 600 réseaux et qu'ils ont des antennes internationales en Suisse, en Belgique et ailleurs. Et donc, Claire Hébert Suffrin a écrit un certain nombre de choses dans la collection... la collection, je ne sais plus quoi, les Lyonnais, là, comment ils s'appellent, les Lyonnais... Chronique sociale, voilà, exactement. C'est un peu cato sur les bords, mais bon, on veut pas. Attends, on va te passer le micro, puisque nous sommes en direct. Dimitri arrive, il se glisse entre les chaises.
Merci. Oui, en fait...
Qui es-tu ?
Je m'appelle Xavier.
Bonjour, voilà. Xavier.
Voilà. Et en fait, tu cites pas le cadre de tes apprenants. En fait, moi, il y a quelque chose quand même qui me questionne. C'est que si je pense à moi quand je me forme à quelque chose, c'est quelque chose que j'ai choisi. C'est une direction dans laquelle je veux aller. Alors qu'un enfant, il choisit pas d'aller à l'école, quoi. Enfin, donc...
Parce que tu t'imagines que les adultes choisissent toujours.
Ben je ne sais pas, parce que tu je ne sais pas dans quel cadre...
Ben moi, j'ai exercé dans plusieurs cadres. J'ai fait de l'alphabétisation dans les foyers de travail immigrés. J'ai travaillé à l'université pendant de nombreuses années. Et je travaille toujours un petit peu à la marge auprès de travailleurs sociaux, de la CAF ou de la CRAMI, fait des choses comme ça. Donc la question, ce n'est pas de savoir ils sont volontaires ou pas volontaires. Je pense que ça serait bien que les enfants soient volontaires pour venir à l'école. Voilà. Il y a un certain nombre de publics adultes qui sont volontaires et un certain nombre de publics adultes qui sont contraints. Hein, parce que dans le cadre d'un contrat de travail, si ton patron te dit tu vas aller te former à telle chose pendant 3 jours, ça fait partie des missions qui sont liées au contrat de travail. Et ne pas accepter cette formation-là peut entraîner un certain nombre de modalités répressives. Ça va rarement jusqu'au licenciement, sauf s'il y a mise en danger d'autrui, mais tu peux avoir facilement un rappel à la loi, comme on dit, et la loi du patron. Voilà. Mais c'est vrai que le fait d'être volontaire facilite, là aussi, très largement les apprentissages, il n'y a aucun doute, quoi. Bien sûr.
Toujours Noémie. J'aimerais du coup faire part de mon sentiment, ma perception par rapport à cette prise de parole de votre part. J'ai du mal à comprendre pourquoi vous parlez d'invariant. En fait, cette formulation, je comprends les propositions qui sont données, mais pour moi, ce sont des propositions. Et le fait de parler d'invariant, de choses qui sont invariables, notifie déjà une sorte de hiérarchisation entre les différents partis, qui est, du coup, parce que du coup, ça fait une partisation entre l'enseignant et l'enseigné. Et je questionne notamment, en fait, cette position toujours qu'on a dans toutes les prises de parole qu'on a actuellement, de dire qu'on éduque l'enfant, qu'on éduque l'adulte, qu'on éduque la personne qui se fait éduquer, et on parle de l'enseignant comme quelqu'un de neutre qui ne prend pas part dans l'échange. Ça me fait poser beaucoup de questions, en fait, sur... quelle est notre participation en tant qu'enseignant enseignante dans ce qui se passe ? Et aussi, enfin, juste, j'ai pensé aussi à cette notion d'invariant, notamment par rapport au respect et aux questions du respect. Vous avez parlé du doute. Je ne sais pas si c'est ici qu'on peut parler d'Élisée Reclus, mais il parle notamment du fait qu'il faut, avant de respecter une institution ou un maître, se questionner aussi de la légitimité du respect qu'on doit avoir pour la personne. Et j'ai l'impression qu'on ne met pas les dispositions, ne serait-ce que dans ce cadre de conférences populaires, de remise en question et de non-hiérarchisation. Voilà, c'était ma vigilance que je mettais là.
Deux petites choses. Invariant, ça veut dire qu'il y a aussi des variables. Hein, et c'est en combinant l'ensemble de ces propositions, comme tu le dis, qu'on va réussir à trouver des choses qui vont satisfaire ceux et celles qu'on vit d'apprendre. Hein, voilà. Et sachant que c'est invariant, c'est pas j'applique tout, c'est en fonction du groupe, des adultes, des personnes avec qui je suis, éventuellement de mon profil, je vais taper dans telle ou telle chose. Et en plus, vous avez de la chance, parce que comme j'ai limité mon temps de parole, de l'invariant numéro 19 à l'invariant numéro 34, je crois, c'était justement ceux qui permettent aux apprenants et aux apprenantes de prendre leur place, toute leur place, dans le processus éducatif. Mais ça, Monique m'a dit que j'avais plus de temps. Alors... Et là-dessus, aussi, on a réfléchi. Par exemple, le groupe Commune de Paris, auquel j'appartiens à personne, comme disait... Voilà, mais fait deux choses. Il fait une université populaire où on projette un certain nombre de films sociaux avec un débat. Et donc ça, c'est une première forme. Et puis on a une deuxième forme qui est animée par d'autres compagnons du groupe, qui s'appelle les causeries populaires. Hein, et donc, autant dans l'université populaire, c'est nous qui choisissons les films et qui animons plus ou moins le débat, autant dans les causeries populaires, on a un thème, chacun vient et vient raconter ce qu'il a envie de dire ou de faire partager avec les autres. Voilà. Hein, et ça, ça renvoie... dans l'histoire de l'éducation populaire, pour le coup, à ce qui s'est passé dans les années 1900, où il y avait les universités populaires un peu traditionnelles qui avaient été mises en place par Gabriel Céaille et de Herm. Céaille, c'est un prof de philo à la Sorbonne, vous imaginez, un grand notable, quoi. Et de Herm, c'est un menuisier anarchiste qui a mal tourné après, mais ça peut arriver. Voilà. Et donc, un certain nombre d'anarchistes de l'époque disent ben, « il y en a marre de ces gens qui font de la pédagogie frontale comme ça et qui vont nous apporter un savoir dont on n'a pas grand-chose à faire, puisqu'on ne parle pas de la chose sociale et qu'on va parler, comme Élisée Reclus le faisait très bien, de l'empire du milieu. » En fait, on se contrefout de l'empire du milieu. La question sociale nous préoccupe davantage. Voilà. Et donc, un certain nombre d'anarchistes, dont Libertad et Paraflaval, avaient créé, sur le 18e arrondissement, des causeries populaires où, effectivement, le thème était libre. Chacun le préparait plus ou moins avant de venir. Et puis, c'était publié dans un journal dont je vous livre le titre en avant-première, qui s'appelait « L'anarchie ». Extraordinaire. Et sachant que, là aussi... L'anarchie, c'était intéressant parce que, contrairement à la règle typographique, le A de anarchie était un A minuscule. Parce qu'une de nos compagnes de l'époque avait essayé de simplifier l'orthographe et éventuellement un certain nombre de codes typographiques de manière à ce qu'ils soient accessibles au plus grand nombre. Hein, donc on virait les doubles consonnes, on virait le PH pour faire feu, enfin, elle essayait de faire en sorte que le maximum de gens puissent accéder à la lecture de la manière la plus facile. Alors ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que Fidel Castro, un de nos grands amis, a fait à peu près la même chose quand il est arrivé au pouvoir à Cuba. Donc simplifier l'orthographe et la grammaire pour que l'alphabétisation soit la plus facile possible pour les populations. On est où là ? 39. Il faut que je parle. Ou que vous parliez, ça serait bien mieux d'ailleurs. Bien, s'il n'y a plus de souhait d'intervention, on va, je crois, passer un petit morceau de musique et puis va venir occuper cette table-là Bruno Rops, qui est pas loin, et qui est un des... Ouais, on va le flatter parce qu'il arrive. Un des grands spécialistes de la pédagogie institutionnelle qu'on a un tout petit peu évoqué. On a beaucoup évoqué Freinet aujourd'hui, un peu moins Horry et un peu moins la pédagogie institutionnelle, mais il va vous dire tout ça.